Merci, Madame la Présidente. Vous aviez, lorsque vous avez commencé à préparer ce colloque, vous aviez pensé me confier le soin de traiter les différents systèmes judiciaires en Europe. Et en y réfléchissant tous deux, nous avons limité le sujet, le thème, à une approche comparée de l'expertise dans les systèmes judiciaires de droit continental et de common law. Donc, on a limité en se concentrant sur l'expertise. L'étude des différents systèmes et de systèmes judiciaires qui sont très différents d'une autre permet d'enrichir la compréhension de notre modèle d'expertise. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que quel que soit le système juridique des États, la justice recourt toujours à des témoignages d'experts, soit à des experts que les juges désignent eux-mêmes pour trancher les litiges qui leur sont soumis, soit encore à des experts qui viennent témoigner au cours du procès ou même un peu dans la période pré-sentencielle. Faut-il s'étonner du recours à l'expert par le juge ? Je ne le crois pas, parce que loin est le temps où Léonard de Vinci réunissait sur sa personne des compétences quasi universelles. Je vous rappelle qu'il était architecte, sculpteur, peintre, ingénieur, spécialiste de l'étude de la mécanique, spécialiste de l'anatomie du corps humain. Et au contraire, notre époque se caractérise par une spécialisation très affirmée dans tous les secteurs d'activité, ce qui est lié au haut niveau technique et scientifique de nos sociétés et également à la technicité croissante des processus qui sont mis en œuvre, notamment dans l'industrie. Cela va de pair avec des normes toujours plus nombreuses, mais aussi avec une judiciarisation de notre société. Et qui dit judiciarisation dit plus de procès, et qui dit plus de procès dira aussi plus d'experts. Et à ce titre-là, certains auteurs ont parlé du temps des experts. Alors je ne sais pas si le temps des experts est venu, mais en toute hypothèse, l'expertise nous intéresse. L'expertise judiciaire est singulière à double titre. D'une part, parce qu'elle se situe aux confins, comme vous le savez, de la science ou de la technique et du droit. Deuxième singularité, cette expertise s'articule au procès, puisque l'avis de l'expert va servir au juge pour élaborer sa décision. Par ailleurs, il faut tenir compte aussi d'un autre élément quand on parle de l'expertise, c'est le caractère universel de la décision de l'information. Ce colloque en témoigne, puisque Madame la Présidente Bernard nous a dit qu'il était diffusé en même temps sur Internet. Et ce caractère universel de la diffusion brouille les repères techniques et scientifiques et contribue paradoxalement à affaiblir le pouvoir de l'expert, en ce sens que son savoir va être discuté par les justiciables au regard des données qui sont recueillies sur Internet et données que le profane a quelquefois bien du mal à distinguer de fausses informations. Alors, comme vous le savez, coexistent en Europe deux grands systèmes judiciaires. L'un, le système judiciaire de common law, qui a pour creuset l'Angleterre, qui s'est étendu aux États-Unis, en Australie, au Canada notamment. Dans ce système, le procès est accusatoire, c'est-à-dire qu'une personne accuse l'autre devant le juge, et ce juge n'instruit pas l'affaire, mais se limite à trancher le litige entre les thèses adverses. Et dans ce système, l'instruction du procès pèse sur chaque partie, au motif que la partie qui engage le procès est la plus apte à défendre son point de vue. Et dans ce modèle, il appartient à chaque partie de recourir à l'expert de son choix, expert qui sera appelé à témoigner devant la justice. C'est ce qu'on appelle l'expert témoin. Dans l'autre système judiciaire qui est issu historiquement du droit romain, système dont nous sommes l'héritier, système que l'on nomme aussi système de droit continental, qui est en Europe représenté en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, et j'en passe, la procédure y est essentiellement inquisitoire, comme elle l'est spécifiquement en droit français dans le procès pénal. procès civil, en revanche, n'est ni tout à fait accusatoire, ni purement inquisitoire. Et comme vous le savez, le juge y a un rôle dans la recherche de la preuve, en pouvant d'office ordonner une expertise. Mais généralement, il est recouru à l'expertise à la demande des parties. Compte tenu des différences culturelles qui existent entre les deux systèmes, les deux grands systèmes judiciaires, il m'a semblé qu'il serait téméraire de tenter une synthèse du droit d'expertise en Europe, et ce d'autant plus qu'aucun processus d'unification législative ou réglementaire de la procédure n'est engagé et n'est même réclamé par des États qui défendent chacun leur système en raison de leur culture différente. Cependant, un point commun réunit tous les systèmes judiciaires en Europe, c'est l'existence et l'exigence du procès équitable. Le procès équitable est celui qui garantit aux justiciables l'accès à la justice, c'est-à-dire à un tribunal indépendant et impartial devant lequel le débat doit être contradictoire. Face à des modèles judiciaires si différents, nous pourrions être tentés de penser que les questions d'expertise de droit continental ou de common law sont distinctes et que ces expertises ne peuvent répondre à des exigences communes. Et je crois que nos trois interventions ce matin tenteront de vous démontrer le contraire. Je vais vous inviter pour ma part à observer les approches des justices de droit continental et de common law à travers trois questions fondamentales du droit d'expertise que sont le principe de la contradiction, l'indépendance et l'impartialité de l'expert et enfin la crédibilité de l'expert. Plutôt que de me livrer à une recherche tatillonne des règles de l'expertise dans chaque pays d'Europe, il m'a semblé plus intéressant de comparer les grands systèmes pour en mesurer avantages et inconvénients. Alors, donc, première question, c'est la question du principe de la contradiction et de l'expertise. Je n'aurais pas l'audace de rappeler à un auditoire aussi savant, composé de mes collègues magistrats, d'experts, et peut-être d'avocats, que le droit français attache une importance considérable au respect de la contradiction par l'expert. En témoigne le fait que des règles strictes et formalistes de convocation des parties, notamment en procédure civile, sont prévues afin de s'assurer que les parties ont été régulièrement appelées aux opérations d'expertise. Vous savez tous comment fonctionne l'article 160 du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile impose également à l'expert de respecter les diligences qui sont ordonnées par le juge. Par exemple, lorsque le juge ordonne le dépôt d'un pré-rapport, eh bien, si l'expert ne s'y soumet pas, son rapport risque d'être annulé. Autre exemple de ces exigences du contradictoire, l'expert doit porter à la connaissance des parties l'avis du sapiteur auquel il a fait appel. Et si on ne trouve pas dans le rapport d'expertise cet avis, eh bien, le rapport est susceptible d'être annulé. Vous le savez, la méconnaissance du principe de la contradiction est sanctionnée en procédure civile, notamment en visant l'article 16 du Code de procédure civile qui entraîne l'annulation du rapport d'expertise. En bref, tout ce qui sert à l'expert à émettre son avis doit avoir été porté à la connaissance des parties. Et à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme juge sévèrement toute méconnaissance du principe de la contradiction, et c'est ce qu'elle a fait dans un arrêt très célèbre dont vous avez tous entendu parler, c'est l'arrêt Menton-Vanelli contre France du 18 mars 1997. Alors je vous le rappelle pour mémoire, l'affaire concernait la mise en cause de la responsabilité d'un hôpital à la suite du décès d'une jeune fille de 20 ans, qui avait été opérée à l'origine pour un panari. C'est un procès qui a eu lieu devant les tribunaux administratifs de l'Est de la France, mais les conclusions peuvent en être tirées tout autant en procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette jeune fille, à la suite de la première intervention pour ce panari, a subi 7 interventions chirurgicales, des greffes de peau, 2 reprises opératoires, une amputation d'une phalange, puis après un ictère, la jeune fille est décédée. C'est un drame humain, et une expertise a été ordonnée par le juge administratif. Simplement, l'expert n'a pas procédé contradictoirement et les parents non de la victime n'ont pas pu avoir connaissance de toutes les pièces auxquelles l'expert avait eu accès. Cette affaire a été plaidée bien des années ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a relevé que l'expertise concerne un domaine technique qui échappe à la connaissance des juges et que les conclusions de l'expert sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits par le juge. En conséquence, la Cour européenne considère que la méconnaissance du principe de la contradiction doit être sanctionnée car cette méconnaissance n'autorise pas un procès équitable et que, comme le dit la Cour européenne dans cet arrêt, les parties doivent pouvoir faire entendre leur voix de manière effective. Dans les pays de common law maintenant, il n'existe pas d'expertise contradictoire. Les opérations sont inquisitoires et donc non contradictoires. L'expert de chaque partie ne procède donc pas contradictoirement en présence de l'adversaire, ni même cet adversaire dûment appelé aux investigations expertales. En fait, la contradiction repose sur la cross-examination qui, en principe, conduit l'expert appelé par une partie à témoigner. Et lors de cette audition devant le juge ou devant les jurés, cet expert est d'abord interrogé par la partie qui a fait appel à lui, puis ensuite, et c'est là la phase contradictoire, cet expert est contre-interrogé par son adversaire. Et de cette façon, le tribunal, que ce soit un tribunal composé de juges ou de jurés, va confronter les opinions de chaque expert afin de faire triompher la plus vraisemblable. Cependant, le système anglais a évolué fortement à la fin des années 1990 à la suite d'une réforme qui a été proposée par Lord Wolfe afin de remédier à un inconvénient majeur du système anglais, c'est-à-dire son aspect très coûteux qui rendait la justice peu accessible à ceux qui ne disposaient pas de moyens financiers importants pour supporter le coût de son expert ou le coût de ses experts témoins. Il est à noter d'ailleurs que le système américain repose encore globalement sur le système anglais que nous connaissions jusqu'alors, et c'est un système très coûteux. La réforme de Lord Wolfe innove fortement, en ce sens qu'elle va permettre aux juges d'imposer un expert unique, et cette réforme a été, il faut le dire, très inspirée par le système de l'expertise français, mais Lord Wolfe l'a adapté au système judiciaire de common law. Ce qui est intéressant de noter, par rapport à ce que je vous ai déjà dit, c'est que même lorsque le juge impose que les parties n'auront qu'un seul expert, ne disposeront que d'un expert unique, aucun texte de procédure ne prévoit que l'expert doive convoquer les parties. Mais il est possible, avant le procès, d'interroger l'expert pour qu'il s'exprime sur la teneur de son rapport à la suite des observations faites par l'adversaire. C'était donc le premier thème que j'évoquais. Le deuxième concerne l'indépendance et l'impartialité de l'expert. Dans le système de droit continental, le nôtre, l'expert est désigné par le juge, il doit être indépendant et impartial, ne serait-ce que parce que son avis a un poids prépondérant sur la solution que le juge va donner au litige. Et en droit français, l'obligation d'indépendance et d'impartialité est impérative et la jurisprudence a eu maintes fois statué sur les conditions dans lesquelles l'expert peut concilier sa mission d'expert et ses activités. Les exigences d'indépendance et d'impartialité se heurtent au fait que l'expertise est une fonction et non un métier. En effet, l'expert, comme vous le savez tous, est adossé à l'exercice d'une profession, il évolue dans un milieu professionnel. Et cette évolution dans ce milieu professionnel le met en relation ou en concurrence même avec d'autres hommes de l'art. Or, l'expert est appelé à donner son avis sur les fautes professionnelles de ses pairs, alors qu'il peut avoir eu des contacts professionnels avec ces derniers, ou tout au moins peut connaître leur réputation. C'est pour cette raison que le conflit d'intérêts est particulièrement sensible et délicat pour l'expert, et que ce conflit d'intérêts est la manifestation la plus actuelle des obligations déontologiques de l'expert. Et je sais que l'Union des compagnies d'experts de la Cour d'appel de Paris y a consacré un de ses derniers colloques. La question du conflit d'intérêts a fait irruption dans l'ensemble de la société, comme en témoigne l'institution de la commission présidée par M. Sauvet, vice-président du Conseil d'État, qui a fait des propositions pour prévenir les conflits d'intérêts en matière politique. Suivant la définition qu'il en a donnée, le conflit d'intérêts, c'est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à celle-ci lorsque cet intérêt peut être raisonnablement regardé comme étant de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Le Conseil de l'Europe a donné aussi une définition du conflit d'intérêts. Il s'agit d'une situation dans laquelle un agent a un intérêt personnel de nature à influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions. Donc on retrouve toujours l'impartialité et l'indépendance dans ces définitions. En droit français, comment apprécie-t-on cette indépendance et cette impartialité ? Eh bien, on l'apprécie en recherchant les éléments objectifs qui permettent de faire douter ses qualités chez l'expert. Ce sont essentiellement des éléments tirés de l'apparence qui vont permettre de savoir si ce risque de partialité existe. Et le conflit d'intérêts, bien sûr, est celui que l'on peut raisonnablement connaître, c'est-à-dire que l'expert peut raisonnablement connaître. Pour prévenir ce conflit d'intérêts, en relation, bien sûr, avec l'affaire considérée, l'affaire dans laquelle l'expert est pressenti. Il y a deux solutions. Soit l'expert, qui sait qu'il existe chez lui un conflit d'intérêts, refuse sa mission, soit encore l'expert procède à une déclaration de ses intérêts en relation avec l'affaire considérée. Et je crois que dans son rapport au garde des Sceaux, la commission présidée par Mme Bussière, premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, et M. Autain, procureur général, dont M. le premier président vous avait fait état il y a un instant, eh bien, cette commission préconise le dépôt systématique par l'expert d'une déclaration d'acceptation de mission et d'indépendance. Peut-être que dans quelques temps, nous retrouverons dans le code de procédure civile et dans le code de procédure pénale cette obligation de déclaration d'indépendance. Dans le système de common law maintenant, la question de l'indépendance et de l'impartialité se pose de façon très différente, puisque l'expert est choisi par une partie et que celle-ci l'a appelé, pourquoi ? Pour tenter de convaincre le juge ou les jurés du bien fondé de sa thèse, et la position de l'expert contient donc en elle-même une part irréductible de subjectivité. En effet, dans le système de common law, l'expert est un prestataire de la partie qui a recours à lui. Alors, je sais que nous parlerons très probablement tout à l'heure de cette notion de prestation de service qui a été définie dans l'arrêt Penarora du 17 mars 2011, mais même en glosant sur cette notion de prestataire de service qui est la situation juridique qui a été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne à propos des experts français, ou à propos d'un expert français, devrais-je dire, cette prestation de service pour l'affaire Penarora concerne la justice et non pas une partie ou même les parties. Donc, dans le système anglo-saxon, l'expert est dépendant de la partie qui a fait appel à lui. Et en Angleterre, comme aux États-Unis, il est normal que l'expert soit rémunéré, car il livre à cette partie une prestation technique ou scientifique, et que la rémunération de ce service témoigne de son appartenance à la communauté professionnelle. Cependant, la dépendance financière de l'expert témoin de common law heurte profondément nos conceptions de droit français. Il faut observer que les règles américaines relatives à l'expertise ne contiennent aucune disposition sur l'impartialité de l'expert. Et à cet égard, je cite même un avocat américain très médiatique, Maître Melvin Bailey, qui avait eu cette formule très brutale, mais sans détour: faire appel à un expert impartial, c'est gaspiller son argent. tout était dit. Cependant, la justice anglo-saxonne ne veut pas d'experts délibérément partiels, qui seraient de parti pris. Ainsi, en justice, on n'admet pas que l'expert change d'avis, que celui qui se met au service de l'une des parties passe au service de l'autre, en quelque sorte, brouille les repères entre les plaideurs. En Angleterre, plus précisément, les experts ne sont pas considérés comme les représentants des parties, et le premier devoir de l'expert dans le système d'anglais est d'assister la juridiction de manière impartiale. Et on retrouve là l'influence qui sera développée par les autres interlocuteurs sur l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme. Troisième regard que je porte sur l'expertise en Europe, comment y apprécie-t-on la crédibilité de l'expert ? Alors, la question du savoir de l'expert est au centre des interrogations sur la crédibilité de son avis dans tous les systèmes de droit, et cette question est particulièrement sensible dans notre droit, car le juge est considéré à tort ou à raison comme dessaisi par la désignation de l'expert, et les parties, il faut le dire, et les experts peuvent en témoigner, les parties perçoivent souvent l'expertise comme un procès des faits. Il est certain que le rôle de l'expert n'est certainement pas seulement d'être un assistant du juge. En effet, si le rôle de l'expert se limitait à cela, le juge français lui adresserait les éléments techniques de son dossier pour obtenir un avis. Et comme vous le savez, lors de l'expertise judiciaire, il se passe bien autre chose puisque les parties vont confronter leur thèse et en débattre avec l'expert. Dans les parties de common law et spécialement aux États-Unis, la compétence est déterminée par le juge car il incombe au juge de se prononcer sur la valeur à attribuer au témoignage de l'expert. Et la question est devenue centrale aux États-Unis pour éviter que des experts peu scrupuleux témoignent au mépris de toute rigueur scientifique. Et le système américain, comme le système australien, est très circonspect sur le témoignage des experts, car les juges craignent que les experts abusent de leur autorité, notamment vis-à-vis des jurés, qui ne sont pas des professionnels. Et comme il n'est pas possible de former des jurés à des disciplines spécialisées, alors que ces jurés sont souvent désignés pour une seule affaire, que ces jurés ne disposent d'aucun repère, ni d'expérience pour écarter des témoignages peu sérieux, eh bien, il appartient au juge de déterminer, de se prononcer sur la valeur à attribuer au témoignage de l'expert. Et à ce titre, il y a eu une dizaine d'années un scandale en Australie lorsque la justice a découvert que certains experts monnayaient leurs prestations au plus offrant sans souci d'une vérité scientifique. C'est ce qu'on a appelé le scandale des bouches allouées. C'est comme ça que la presse a qualifié ce scandale. Voilà pour la presse. Aux États-Unis, le juge doit se prononcer sur l'admissibilité du témoignage de l'expert. Et les États-Unis, il faut le dire, ont élaboré un mécanisme très complexe pour s'assurer que chaque témoignage d'expert est fiable. Et la Cour suprême des États-Unis est intervenue en 1993 pour imposer au juge de vérifier la fiabilité et la crédibilité de chaque expert dans un arrêt d'Aubert. Alors, les faits dans cette affaire étaient les suivants. C'est un laboratoire pharmaceutique qui avait commercialisé du Distilben, produit destiné à réduire les nausées des femmes enceintes. Bien sûr, en France, malheureusement, cette même molécule a été commercialisée, entraînant également un certain nombre de dégâts, puisque maintenant on en est à la deuxième génération. Et on s'aperçoit que les enfants de la deuxième génération peuvent connaître des malformations liées à cette prise de Distilben. Et le laboratoire scientifique, pharmaceutique plutôt, a été mis en cause dans la naissance d'enfants mal formés. Comme le débat était de haut niveau scientifique, la Cour suprême est intervenue pour dire que les juges du fond devraient désormais s'assurer que chaque témoignage est pertinent et fiable. Et la Cour suprême a imposé aux juges de vérifier quatre conditions. Je vous les cite un peu, même si elles mériteraient d'être beaucoup plus précisées. première condition, il faut vérifier si la théorie ou la technique préconisée par l'expert a été testée. Deuxième condition pour savoir si l'expertise est crédible ou si l'expert est crédible, la technique préconisée par l'expert a-t-elle été évaluée par la communauté scientifique? Troisième condition, y a-t-il un pourcentage statistique d'erreurs connues dans la technique utilisée? Et quatrième condition, la technique proposée est-elle acceptée par la communauté scientifique? Donc c'est un regard croisé à travers quatre critères qui doivent être remplis, qui doivent être définis par le juge pour s'assurer de la crédibilité de l'expert. Et depuis l'an 2000, ces principes ont été codifiés dans les règles fédérales de procédure américaines. Il est intéressant d'observer que les règles de procédure anglaises sont précises également quant à la façon dont l'expert doit étayer son avis. En effet, il lui est demandé d'indiquer sa documentation, de mentionner les personnes qui ont effectué des tests ou des expérimentations, tests ou expérimentations dont il fera état dans son rapport, de détailler ses investigations, d'énumérer les différentes opinions qui existent sur les questions techniques objet du rapport, y compris en énumérant les opinions qui seraient contraires à la sienne. Ainsi, dans le rapport écrit qui est devenu la règle en Angleterre, rétablit-on une discussion contradictoire. Et par ailleurs, une fois que le rapport est rédigé, l'expert doit établir une déclaration de vérité. Elle s'appelle comme ça une déclaration de vérité, qui mentionne que l'expert croit que les faits exposés au sein du rapport sont vrais et que les opinions exprimées sont correctes. En France maintenant, la compétence de l'expert est appréciée lors de son inscription, puis de sa réinscription sur les listes d'experts. Et vous le savez, le candidat doit avoir une aptitude qui est mesurée à l'aune de sa qualification, de son expérience et des connaissances qu'il a acquises tant dans son domaine d'activité que dans le domaine de l'expertise. On apprécie bien sûr également si le candidat a acquis la connaissance des principes directeurs du procès, des mesures applicables à l'expertise. Mais il ne suffit pas de dresser des listes d'experts pour être certain de la fiabilité des connaissances du technicien qui a été désigné. Et le système actuel d'inscription des experts, je dis bien actuel parce qu'il risque d'évoluer, accentue un des défauts du système français en donnant l'impression que l'expert et que les compétences de l'expert sont certifiées lors de l'inscription. Alors que, à mon sens, la crédibilité doit être vérifiée au moment où l'expert est pressenti par le juge. Et à cette fin, il est opportun qu'une discussion ait lieu entre le juge et les avocats des parties sur la personne la plus apte à mener la mission en cause au regard du périmètre de l'expertise. Cela signifie bien sûr qu'il faut y consacrer du temps pour débattre et éventuellement interroger l'expert pressenti. Enfin, une autre manière d'envisager la crédibilité de l'expertise est d'améliorer la qualité du débat technique. Et à cette fin, la Cour d'appel de Paris a passé une convention en 2008 avec les barreaux des 9 tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel et avec l'UCCAP, c'est-à-dire l'Union des compagnies d'experts près de la Cour d'appel de Paris, qui réunit 30 compagnies, une trentaine de compagnies. Nous avions procédé au constat suivant. Fréquemment, après le dépôt du rapport de l'expert, le débat technique rebondit sur des points qui ont été insuffisamment mis en lumière par l'expert dans son rapport ou des points qui n'ont jamais été évoqués par les parties. Aussi, il est nécessaire de concentrer le débat technique lors des opérations d'expertise en utilisant le levier que constituent les dernières observations déposées par les parties, ce qu'on appelle les derniers dires. En effet, ces dires sont intéressants techniquement, mais ils le sont encore plus si l'expert dévoile auparavant le sens de ses conclusions futures. Cela suppose pour l'expert une transparence technique afin que chacun puisse préparer ses observations, afin d'assurer l'épuisement du débat technique au cours des opérations d'expertise. Et l'épuisement du débat technique, ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, mais ça veut dire que toutes les questions auront été examinées. Et À mon sens, la bonne pratique de l'expertise suppose que le technicien élabore sa réflexion en tenant les parties informées de ses développements et de son cheminement intellectuel jusqu'au moment où l'expert considère que ses conclusions sont suffisamment cristallisées pour en faire part aux parties. Et à ce moment-là, nous invitons les experts, à la suite de cette convention, nous invitons les experts à en faire part aux parties dans ce qu'on appelle un document de synthèse. Cette convention tripartite a décidé de donner un caractère systématique au dépôt d'un document de synthèse, sauf exception dûment justifiée par l'expert. Et ce document de synthèse contient le résumé des propositions provisoires de l'expert, ce qui sécurise l'expertise, puisque cela permet, je l'ai dit, de s'assurer que tout a été débattu, mais en donnant à voir qu'il s'agit de conclusions provisoires, donc des conclusions provisoires qui sont susceptibles d'être modifiées au vu des observations des parties, au vu des dires. Et le document de synthèse évite ainsi d'enfermer les experts et les parties dans des conclusions qui sont figées et qui sont antérieures au rapport déposé par l'expert. Pour conclure mon propos, j'observe que l'approche comparée des expertises dans les systèmes de droit continental et de common law n'a pas pour objet d'importer en France des règles juridiques étrangères, mais seulement de prendre conscience que la Convention européenne des droits de l'homme a imprimé durablement sa marque sur la mise en œuvre de l'expertise, ce qui permet à l'expertise de répondre sans se dénaturer aux exigences du procès équitable. Je vous remercie.
Moi, j'ai trouvé, Monsieur le Président, votre exposé absolument remarquable, extrêmement clair. Il y aurait beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, mais je voulais vous demander ce que vous pensiez de la collégialité de l'expertise, éventuellement.
La collégialité de l'expertise, c'est la meilleure des choses et la pire des choses. Alors, on va commencer par le pire. Le pire, c'est ce que j'ai connu quand j'étais juge du contrôle des expertises et que j'avais à régler les incidents entre les experts. Je crois que les incidents entre les experts, pourquoi ? Parce que la question était de savoir qui présiderait le collège expertal, qui convoquerait les parties, qui organiserait en fait les opérations d'expertise. Il est vrai à la décharge des experts, que le code de procédure civile, qui est un monument remarquable par sa précision, par sa concision, n'a rien prévu en ce qui concerne le collège expertal, hormis une disposition qui prévoit qu'un seul rapport sera déposé. Mais bien sûr, un seul rapport sera déposé avec la possibilité quand même d'une opinion dissidente. Donc, le code de procédure civile et le code de procédure pénale ont entraîné le juge à ne désigner qu'un seul expert, puisque la règle est désormais celle-là, hein, un seul expert ne sera désigné, sauf exception. Donc, on a inversé l'ordre des propositions, qui était avant 1975, la possibilité d'avoir un collège expertal. C'est aussi la meilleure des choses, le collège expertal, parce qu'il permet ce que j'appelais tout à l'heure le regard croisé. Le regard croisé, il est particulièrement important quand on a soit un dossier très complexe, soit encore des questions humaines à régler. Et j'insère dans les questions humaines, je ne fais pas offense à votre technique, Madame la Présidente, et à votre art, qui est la médecine. Et je crois que quand on a des actions en responsabilité médicale, compte tenu de l'importance humaine de la solution et de l'avis que contiendra le rapport d'expertise, il est préférable d'avoir un collège expertal, des médecins croisant leur regard sur des événements qui sont souvent très complexes à déterminer. Pour ce qui est des autres matières, à mon sens, seule la complexité justifie le recours au collège expertal, le recours au collège expertal systématique étant évidemment un frein à l'accès à l'expertise, un frein financier à l'accès à l'expertise. Je crois que là, nous sommes, nous tous, tenus par les dispositions de procédure. Donc j'ai commencé par ce qui était le moins bon dans l'expertise, mais retenons ce qui est le meilleur, ce qui permet au juge d'être éclairé, comme le disent les textes. Eh bien, bien sûr, dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait toujours des collèges d'experts, mais je crois qu'il faut raison garder et que la justice a un coût. Donc, le système tel que nous le connaissons permet normalement de faire la part des choses, avec notamment la possibilité pour l'expert de recourir à un sapiteur.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.